CJSO 101.7. La Tribune. Une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la Tribune. Voici Sylvain Rochon.
Bonjour et bienvenue à l'émission. Les taux d'intérêt et l'inflation pèsent lourd sur le moral des Québécois. Un Québécois sur quatre serait incapable de payer ses factures si sa paye était différée d'une semaine. Comment cette situation-là se vit-elle chez nous? Logement, épicerie, comment survivent ceux qui ont peu de moyens et comment la classe moyenne arrive-t-elle elle-même à garder la tête hors de l'eau? Mes invités ce midi, Rénald Bergeron, diplômé en finance et fiscalité, Alexandrine Boisvert, de la Porte du Passant, Patrick Charbonneau, spécialiste de l'immobilier, Dominique Gosselin, d'Action Logement Pierre de Sorel, Aude Lavallée, présidente de l'Association générale des étudiantes et étudiants du cégep de Sorel-Tracy, Albert Kelfa, ex-député et président de l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec, section Bas-Richelieu. Ando Andrianadi, directeur général du Centre d'action bénévole du Bas-Richelieu. José Papillon, du GEST. Michel Beaulieu, de l'Association coopérative d'économie familiale de la Montérégie-Est. Et Sandrine Pellerin, maman de 5 enfants. La Tribune de retour après la pause.
Ah, Lauriane, je pense pas te croiser dans les surgelés. T'es toujours chez Azimut Diffusion?
Ben oui, ça arrête pas avec tous les spectacles qui s'en viennent. Les week-ends sont occupés au Marché des Arts des Jardins.
Ah oui, justement, je voulais venir voir un spectacle.
Ben, on a des événements en théâtre, danse, jeune public, art de la parole, musique.
Moi, je tripe vraiment sur l'humour et la chanson.
S'il faut que je te nomme tout ça, mon épicerie va dégeler. Mais on a la chronique d'Azimut Diffusion à CJSO les mercredis à 8h15.
Ah, pendant Yacht ce matin avec Alex Trudel? Ben oui, je vais être au rendez-vous.
La radio permet de rejoindre les clientèles les plus recherchées par les annonceurs. Elle permet de rejoindre les personnes qui ne sont pas rejointes par les autres médias. Elle permet facilement à l'annonceur de dominer les ondes. Elle ne demande aucun effort de la part des auditeurs. Elle est en première place relativement au temps consacré quotidiennement aux médias par les consommateurs. Et elle est le média le plus flexible de tous. Pour profiter de ce média aux multiples possibilités, CJSO vous invite à contacter l'une de ses conseillères en communication au 450-743-2772. CJSO 101.7, avec vous au quotidien.
Il y a plein de choses dont je veux vous parler dans Valérie l'après-midi. On parle bien sûr des artistes, de musique, on en écoute de l'excellent pour votre retour à la maison. On jase aussi de santé, de littérature et de vie au travail grâce à mes collaborateurs et on demeure bien informé avec Sylvain Rochon. Mon nom est Valérie Ferland, je vous attends du lundi au jeudi 15h30.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7. Avec Sylvain Rochon. De retour à la Tribune.
Est-ce que vous connaissez bien du monde, vous autres, qui ne stresse pas ces temps-ci avec le coût de la vie? Le nombre de salariés considérés comme appartenant à la grappe des financièrement stressés a bondi, selon une étude, de 20 points de pourcentage dans la dernière année seulement et représente aujourd'hui 37 % de la main-d'œuvre. On s'intéresse ce midi au taux d'intérêt, à l'inflation qui pèse lourd sur le moral des Québécois. Je parle d'abord avec Rénald Bergeron, qui est diplômé en finance et fiscalité. Bonjour, Rénald.
Bonjour, Sylvain. Bonjour, auditeurs.
J'aimerais ça d'abord vous entendre sur ce que l'économiste prévisionniste et investisseur François Trahan, là, qui est une vedette de Wall Street depuis 25 ans, déclare un peu partout, à savoir que le pire est à venir. Il n'hésite pas à qualifier l'horizon économique d'apocalyptique. Là, apocalyptique. Je sais, vous n'êtes pas vous-même économiste, mais dites-moi pareil ce que vous en pensez.
Une des causes principales à l'inflation, c'est des causes extérieures. Celle qu'on vit actuellement repose un peu sur ce qui se passe en Ukraine et si ça va continuer avec ce qui vient de se passer et qui continue en Israël. Et une des raisons de l'apocalypse que le monsieur soulignait, c'est qu'il y a, dans la fin des années 2010, début des années 2020, il y avait un éclairci économique, les gens se sont mis à vivre un peu au-dessus de leurs moyens parce que les prix étaient abordables, les taux d'intérêt étaient abordables. Si bien qu'on a connu le boom immobilier un peu pendant et un peu après la pandémie COVID, où les gens pouvaient acheter une maison, parfois au-dessus de leurs moyens. On avait un budget de 250 000, oh, pas grave, on montait à 300 000, ça va bien. Et les taux d'intérêt, à ce moment-là, étaient intéressants. Tu pouvais négocier une hypothèque 2,5, 2 et 3 quarts. Mais là, avec la flambée des taux d'intérêt actuels, le renouvellement des prêts hypothécaires qui s'en viennent en 2024...
Ça va faire mal.
J'ai fait un calcul tantôt. Mettons, OK, j'appartiens à une tranche d'âge qui fait que ma maison est payée, mais si j'avais acheté une maison 225 000 en 2021, au taux de 2,25, et là, on annonce que les taux seraient aux alentours de 5 %, ça me coûterait aux alentours de 8 000 $ de plus par année d'habiter au même endroit sans avoir fait quelque amélioration que ce soit.
La population ici...
C'est 8 000 $-là. Ben oui. Mais si je le divise par 150, ça fait 150. Si je le divise par 50 semaines dans l'année, ça me fait 160 $ de plus par semaine pour habiter ma maison.
C'est énorme.
160 $ c'est de loin le budget que des familles consacrent à l'alimentation, à l'épicerie.
Rénal, la population ici, là je vais vite parce qu'il reste à peu près une minute, la population ici est vieillissante, c'est-à-dire à revenu fixe, revenu composé de rentes, de pensions diverses. Comment est-elle impactée, cette population vieillissante, par la poussée inflationniste, sévèrement ou peu sévèrement?
Vous avez une nomenclature, vous avez fait la nomenclature de vos invités tantôt. Il y a des personnes qui les connaissent, ces retraités-là, beaucoup mieux que moi. Mais ce que je sais, c'est que en 2022-2023, il y a eu une petite amélioration où la pension de sécurité de vieillesse et la RRQ ont connu une augmentation pour justement contrer la flambée des coûts qui s'en est là. Mais on n'aura pas une augmentation de pension de sécurité de vieillesse et de RRQ de 6 % à chaque année. Il y aura des bonifications, mais ces gens-là sont à budget réduit. Et c'est sûr que les circulaires qui arrivent dans le Publisac du mardi avec notre journal local sont de plus en plus consultés et les magasins à rabais, que ce soit Maxi, Super C ou Dollarama, vont voir leur comptoir alimentaire envahi par les gens parce que l'inflation continue à augmenter et les causes internationales ne sont pas là pour prévoir.
Merci Rénal Bergeron, c'est toujours trop court et toujours très intéressant.
Rappelons-nous Pierre-Éliott Trudeau en 75 avec son gel des prix et des salaires. Peut-être que c'est l'option qui sera envisagée.
Merci Rénal. Merci.
Merci, bonne journée à vous. Bye
bonne
bye.
Journée. Alexandrine Boisvert travaille à la Porte du Passant, centre de jour, cafétéria communautaire, service d'hébergement pour les personnes sans domicile fixe. Bonjour Alexandrine.
Bonjour.
Est-ce qu'on l'observe, cette poussée inflationniste chez vous? Le note-t-on que les taux d'intérêt et l'inflation pèsent lourd sur le moral des Québécois? Votre clientèle s'est-elle agrandie?
Tout à fait. Et oui. Le visage de la pauvreté change. Hein? De plus en plus, on voit des gens, c'est vraiment beaucoup plus diversifié. C'est aussi le visage de l'itinérance qui change. On aime les chiffres, hein? Juste au mois d'août, là, pour dire qu'on est toujours, encore une fois, ouvert seulement 3 nuits sur 7. Donc, sur 18 jours d'ouverture, on a vu 39 visages différents venir dormir à la Porte du Passant. C'est énorme.
Puis là, vous êtes en train de nous dire, parce que on est ouvert 3 jours sur 7, alors vous n'êtes pas parfaitement équipé pour répondre aux besoins des personnes sans domicile fixe à 3 jours sur 7.
En fait, on est parfaitement équipé. On n'est pas encore parfaitement financé.
OK, nuance.
La nuance est grande. C'est une question de semaines et de mois. On espère que tout ça se mette en place avant l'avenue des Grands Froids qui est à la porte. Oui, tout à fait. Mais l'infrastructure est là, les ressources humaines sont là, tout est là.
OK, il manque le cash. Logement, épicerie, tout augmente. Je posais la question en début d'émission, la question comment survivre ceux qui ont peu de moyens. La Porte du Passant, c'est une des réponses avec sa cafétéria communautaire.
Oui, tout à fait. On a aussi le petit magasin là, de partage là, qui des articles à faible coût. Mais où est-ce qu'on a vraiment vu un boom? C'est vraiment au niveau du logement. Parce qu'il y en a plus. Ils sont très, très chers. Les gens sont pas capables de se trouver un logement. Des fois, ils se sont fait évincer par le passé, mais avec les nouveaux montants, ben, la marche est très haute. Nous, on a deux logements de transition. Dans le fond, normalement, c'est un maximum de 90 jours. Puis, la personne se retrouve un autre logement. Maintenant, là, ça peut aller jusqu'à 180 jours, là, où est-ce que la personne, elle est dans cet hébergement de transition-là en espérant trouver, à faire des téléphones à tous les jours pour essayer de se trouver un logement. Mais quand on regarde le prix des logements, bien, des fois, la personne est... On parle que c'est un 25 et 35 du revenu brut qui devrait être alloué au logement. Là, on n'est pas là, là. Les personnes, c'est soit qui se logent ou soit qui mangent, un des deux.
Ouais, c'est ça, un joint à faire. Un mot sur la nuit des sans-abri, Alexandrine, en terminant.
Oui, c'est le 20 octobre prochain et je pense que ça va être une nuit des sans-abri majeure parce que, tu sais, comme on a vu là, avec le sommet de l'itinérance, là, avec l'UMQ, il y a quelques semaines déjà, l'itinérance est reconnue. Donc, je pense que les gens sont beaucoup plus sensibilisés à la cause. On s'attend à une très, très grande journée de sensibilisation le 20 octobre.
Très bien. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandrine.
Plaisir, merci.
Merci. Patrick Charbonneau, si tu es à l'écoute, on tente de te joindre. Alors, on va à nouveau essayer. On va parler entre-temps à Dominique Gosselin. C'est bien toi, Dominique, qui est au bout du fil?
Oui, c'est bien moi, oui.
Parfait, ça. Alors, Dominique Gosselin, il dirige Action Logement, Pierre de Sorel. As-tu du mal à croire ça, toi, Dominique, qu'un Québécois sur quatre serait incapable de payer ses factures si sa paye était différée d'une semaine ou si tu trouves que c'est au contraire pire qu'un Québécois sur quatre?
Oui, ben, dans certaines situations, je dirais que ça pourrait être même pire que ça. Parce que effectivement, tu sais, si on fait le budget des gens, vous allez parler avec la CEF tantôt, ils vont vous le dire, là, la plus grosse partie de ton budget qui part en partant pour le locataire, c'est le logement. Fait que peu importe le revenu qu'on a, ça gruge déjà. En fait, au Québec, déjà, il y a 28% des gens qui payent plus que le 30% normal là, du prix d'un logement qu'on devrait calculer, ce qu'on faisait il y a quelques années, mais maintenant, c'est plus possible. Là. Dans la région, je dirais même que ça dépasse, là, c'est autour du 35% des gens.
Ben, j'allais justement te le demander, là, dans le marché locatif privé traditionnel, c'est quoi le coût mensuel moyen d'un logement, là, de, mettons, deux chambres, 4,5 ici, là, à Sorel-Tracy?
On est... pour un 4,5 moyen, c'est autour de 900 maintenant. Là. Fait que c'est sûr que, surtout si on est dans des immeubles plus nouveaux, c'est encore plus cher. Fait que pour les gens à très faible revenu, une personne à l'aide sociale gagne même pas ça par mois. Fait que il faut faire jongler avec tout ce qu'on peut là, pour réussir à survivre. Là, c'est vraiment, vraiment très difficile.
Là, il s'en construit des logements ici. Il est appelé à s'en construire d'autres. On voit des projets dans le privé traditionnel. Ce que tu nous dis, c'est que les gens s'égorgent financièrement pour se les offrir, ces logements-là. Hein?
Effectivement. Puis ce qui se construit présentement, on n'est pas encore dans le logement social. Donc, ça va être encore probablement en majorité des logements qui rejoindront pas les besoins immédiats pour les gens à faible revenu. Ça va servir pour des gens qui ont déjà soit des bons salaires ou même, je dirais, des gens de l'extérieur qui vont arriver, qui pour eux ont peut-être un plus faible coût de logement en venant vivre dans la région. Mais pour nos besoins ici présentement, c'est pas ça qui devrait être priorisé. C'est vraiment le logement social.
Dominique,
qu'on n'a pas
donné
de construction, oui.
L'utilisation du vocable logement abordable, me semble que ça s'est répandu au Québec et que c'est pas toujours hors marché privé. Est-ce que tu y crois? On parle des coopératives d'OSBL ou d'office d'habitation qui n'ont pas pour objectif de faire... on parle pas de deux autres, là. Qui n'ont pas pour objectif de faire des profits, mais du privé. Est-ce que c'est conciliable, privé et abordabilité?
C'est difficile, parce que c'est sûr qu'il faut penser que quelqu'un qui construit un nouvel immeuble, les coûts sont quand même assez élevés avec le manque de main-d'œuvre, avec les matériaux et tout. Je peux comprendre. Par contre, il y a quand même des programmes gouvernementaux qui peuvent aider si les gens sont vraiment intéressés à construire du logement pour aider les gens à plus faible revenu, ce qui n'est pas beaucoup utilisé présentement, malheureusement. Fait que l'abordabilité est pas pour tout le monde, là. Ce mot-là est quand même utilisé un peu à toutes sortes de sauces, là.
D'accord. Je dois déjà te remercier. Merci beaucoup, Dominique.
Et ça m'a fait plaisir.
Merci beaucoup. Alors voilà, Patrick Charbonneau, on va lui parler, est un expert du domaine de l'immobilier, il dirige l'équipe Charbonneau-Chartrand. Bonjour Patrick.
Bonjour Sylvain.
On a longtemps dit que les maisons étaient bien moins chères à Sorel. Est-ce une époque révolue ou est-ce que c'est encore un petit peu vrai?
C'est encore un petit peu vrai, mais c'est une époque où avant on disait qu'on va déménager à Sorel parce que c'est pas cher. Mais maintenant, Sorel a cette bonne valeur. En fait, va probablement monter encore, mais on ne peut plus dire maintenant que les maisons ici, ça n'a plus de valeur.
La valeur moyenne d'une maison à Sorel-Tracy, c'est quoi?
Ben, présentement, je dirais aux alentours de 315-335, beaucoup. On parle d'une maison que je vendais à 150 000 il y a peut-être 3 ans environ. Là.
Ouais. Les taux d'intérêt ont bondi. Ils avoisinent quoi actuellement, les taux d'intérêt?
Ben, tu vois, quelqu'un qui achète une propriété présentement, on avoisine les 7 %.
Ah ouais, 7 %.
Renouvellement, c'est la même affaire aussi.
Ça doit avoir un effet sur les ventes, ça. Est-ce que vous les voyez diminuer, les ventes?
On a encore quelques ventes qui se font bien, mais par contre, je dirais que les gens qui veulent racheter voient maintenant que leur propriété, tu sais, oui, elle a une bonne valeur, mais racheter à côté, une maison de 400 000 à 7 % à 28 000 $ d'intérêt par année, on y pense 2-3 fois. Puis il y a des gens auxquels j'avais déjà parlé dans le passé qui voulaient vendre, que là, me rappelle, disent, bon, on va mettre le projet sur la glace présentement parce que je peux pas racheter. Leur possibilité d'achat a diminué beaucoup. Leur pouvoir d'achat, ben, ouais. C'est beaucoup à cause de ça.
On songe, en vieillissant, à se départir de sa maison, vu le coût drastiquement à la hausse des loyers. Est-ce que c'est un projet qu'on retarde la vente de sa maison pour aller demeurer en appartement?
Ouais, le courtier en moi dirait non, mais la vraie personne en moi va dire oui. C'est préférable présentement de garder sa maison que de déménager à logement, si on est capable de le faire, bien entendu, puis on peut avoir de l'aide pour les gens qui sont plus âgés. Mais de façon générale, présentement, quelqu'un qui a sa maison, qui s'est payé, tout aussi bien rester chez lui que de partir dans un appartement qui va lui coûter beaucoup trop cher, peut-être.
Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste pour 2024? Le taux directeur pourrait-il diminuer, l'inflation décroître? C'est quoi votre degré d'optimisme là, pour l'année prochaine?
Je suis un gars dans la vie en général qui est très optimiste tout le temps, qui voit toujours une solution à tout. Mais par contre, avec ce qu'on voit présentement, on doit être un peu pessimiste à voir que, tu sais, même si les taux d'intérêt ont monté, on continue à dépenser pareil malgré tout. Les gens se sont endettés encore plus. On l'a vu il n'y a pas longtemps, selon une étude, là, que la dette moyenne d'un ménage au Canada, a augmenté considérablement. Fait que, je dirais que c'est encore pessimiste pour réussir à diminuer l'inflation.
Merci beaucoup, Patrick Charbonneau, d'avoir accepté cet entretien. Merci.
Grand plaisir. Au revoir.
Après la pause, on parle à Haute-de-la-Vallée, Albert Kelfa et Ando Andrianadi.
Avec Denis Marion, tous les jeudis midi, tête première.
Ici Denis Marion. Plongez avec moi dans l'actualité, avec les gens qui la font, mais aussi avec celles et ceux qui l'observent et qui l'analysent, pour débattre, pour échanger et pour apprendre. Faisons-le ensemble chaque semaine, le jeudi midi, CJSO 101.7.
Tête première, l'émission où des débats font avancer les choses. Denis Marion parle des vrais sujets et pose les bonnes questions. Tête première, tous les jeudis midi à CJSO.
Express Pub.
La ville de Sorel-Tracy, la fabrique culturelle et druide informatique vous invite du 1er au 31 octobre au Festival littéraire Octobre, le mois des mots. Au programme, activités, concours et conférences. Réservez vos billets gratuits au octobrelemoisdesmots.ca/programmation-2023.
À tous ceux qui connaissent le plaisir du travail en équipe et la joie de poursuivre un objectif commun, Iris est à votre recherche. Nous offrons des opportunités permettant de vous épanouir professionnellement. Plongez dans un environnement qui favorise la croissance et qui vous permettra de sculpter votre chemin en fonction de vos talents uniques. Soumettez votre candidature dès maintenant. Visitez iris.ca. Iris, votre avenir commence ici. Docteur Jaël Saint-Jacques, optométriste.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune,
Les études démontrent que l'inflation met à rude épreuve le moral des Québécois. Un sur quatre serait incapable de payer ses factures si sa paye était différée d'une semaine. Comment cette situation-là se vit-elle chez nous? C'est la question que je pose à mes invités. Je joins la présidente de l'Association générale des étudiantes et des étudiants du cégep de Sorel-Tracy, Aude Lavallée. Bonjour, Aude.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien. Les études démontrent que l'inflation pèse lourd sur les finances des étudiants. Elle entraîne une hausse considérable du nombre de ceux qui comptent sur leurs parents pour se loger puis financer leurs études. Presque la moitié des étudiants de niveau post-secondaire indiquent qu'ils vont vivre chez leurs parents pendant leurs études, comparativement à 36 % en 2013. Alors, la moitié maintenant, 36 % que c'était en 2013, les gens qui déclaraient qu'ils allaient vivre chez leurs parents pendant leurs études. Est-ce que ça vous étonne, ces chiffres-là, Aude, ou c'est la tendance que vous observez là près de vous?
Non, pas du tout. Honnêtement, c'est sûr que là, je suis encore au cégep en région. Moi, je suis une des personnes qui a la chance de vivre chez mes parents et de pas voyager beaucoup. Mais honnêtement, avec les nombreux jeunes que je côtoie, la majorité reste encore chez leurs parents et justement vont à des cégeps près de chez eux afin de voyager peu, économiser sur le prix du gaz, économiser sur les logements. Puis même ceux qui s'en vont à l'université essayent de regarder si c'est plus avantageux de voyager parce que vraiment c'est un enjeu qui pèse là chez les étudiants. Donc effectivement, il y a vraiment peu de gens qui sont en appartement au cégep. C'est sûr que vu qu'on est un cégep de la région, beaucoup de jeunes habitent proches et viennent au cégep de Sorel-Tracy. Mais honnêtement, c'est vraiment une tendance à ça me. Je suis tout à fait d'accord avec ces chiffres-là.
Ouais, autre chose que dit l'étude que j'ai parcourue, là, c'est une étude de la RBC, c'est que les étudiants ne se tournent pas uniquement vers leurs parents pour obtenir du soutien financier, mais aussi pour qu'ils les aident à établir leurs objectifs financiers. Ça, les auteurs de l'étude se réjouissent de ça. Est-ce que vous observez ça aussi?
C'est sûr que ça, c'est peut-être plus dans le domaine privé, donc je suis peut-être moins en mesure de répondre. Mais honnêtement, je suis contente d'entendre ça parce que justement, peut-être que ça va faire des citoyens plus forts financièrement, qui vont avoir connu peut-être plus d'épreuves, puis leurs parents vont pouvoir justement les conseiller. Donc, je suis contente d'entendre ça également.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants du cégep de Sorel-Tracy qui travaillent à temps partiel?
Oui, si c'est pas tous, c'est la grande majorité. En plus que certains ont des stages et ces stages-là ont des coûts. Et nous, en ce moment, justement, les associations du Québec, on est pour la rémunération des stages au public. Alors oui, effectivement, les gens, des fois, n'ont pas le choix de travailler, d'aller à l'école en plus de leur stage non payé. Donc ça, c'est une réalité très frappante. Même moi, j'ai deux emplois, puis j'étudie, je suis présidente de l'association étudiante. Ça, c'est vraiment une réalité courante chez les étudiants.
Et j'imagine que beaucoup d'étudiants ont, devant cette poussée inflationniste, réduit là, les dépenses non essentielles.
Effectivement. C'est sûr que le fla-fla, justement, diminue beaucoup. Mais comme des gens qui ont la chance, comme moi, d'habiter encore chez leurs parents, c'est sûr que ça l'aide un peu. Donc, je travaille, puis j'ai pas beaucoup de trucs à payer, de bills, justement. Mais pour ceux qui doivent payer des factures et tout, je les plains un peu parce que honnêtement, c'est très cher. Puis avec l'école et travailler, c'est difficile de se trouver un horaire pour ne pas perdre la tête dans tout ça.
La gestion des dépenses pendant les études, c'est certes un défi. L'est tout autant le remboursement des dettes après l'obtention du diplôme. Est-ce que c'est source d'anxiété chez vos consoeurs et confrères?
Honnêtement, je crois que c'est un stress qu'on ressent plus peut-être à l'université. Au cégep, on a la chance que nos frais d'études ne soient pas si coûteux que ça. Puis, il y a des bourses et tout. Mais c'est sûr que des prêts étudiants, c'est extrêmement stressant, surtout si on les utilise. C'est des milliers de dollars à remettre. C'est sûr que c'est un stress financier de plus que le logement, que toutes les situations qu'on a présentement. Donc, c'est sûr que ça pèse sur les étudiants lourdement.
Est-ce que vous êtes optimiste quant à votre avenir, quant à l'avenir des jeunes, Aude?
J'aimerais dire oui, mais c'est sûr que pour quelqu'un qui s'en va à l'université l'année prochaine et qui risque peut-être de déménager, c'est sûr que c'est vraiment un stress que j'ai face à trouver un logement, face à
OK, est-ce que je vais être capable de travailler, d'avoir des bonnes... Parce que c'est aussi que oui, OK, travailler, mais on est à l'école pour avoir des bons résultats, pour avoir notre métier plus tard. Donc ça, c'est important. Puis j'ai pas envie de négliger mon école parce que j'ai pas le choix de travailler pour payer juste mon logement. Puis, tu sais, c'est... J'aimerais dire que oui, j'aimerais que tout ça baisse, que... On a besoin qu'ils aillent étudier pour devenir les prochains métiers du futur. Donc, on a besoin qu'ils n'abandonnent pas. Mais malheureusement, en ce moment, c'est plutôt précoce la situation.
Merci beaucoup, Aude Lavallée. C'était très intéressant. Merci, puis à la prochaine fois.
Merci, au revoir.
Merci. Albert Kelfa fut député de la circonscription de Richelieu de 1985 à 1994. Il a, avant ça, mené une carrière d'enseignant. On lui parle ce midi en sa qualité de président de l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec, section Bas-Richelieu. Bonjour Albert.
Bonjour Sylvain, ça va bien? Bonjour tout le monde.
Ça va bien. Il fut un temps où les Québécois, tu te souviendras de ça Albert, jugeaient que les enseignants avaient des conditions en or, de bons salaires et surtout de très longues vacances estivales suscitant beaucoup d'envie. Cette opinion, il me semble, a évolué. Il me semble qu'elle a évolué, cette opinion-là, heureusement évolué. On s'est rendu compte que c'était loin d'être le Klondike, ce qui n'est pas non plus...
J'ajoute sur ça, c'était un fonds de pension indexé. Et depuis 82, le gouvernement, une décision politique à l'époque par trois lois, en décembre 82, qui ont gelé l'indexation de fonds de pension des enseignants.
Ben oui, alors j'allais dire, c'est pas non plus la mer à boire, votre pension d'enseignant. Faute d'indexation, vous vous appauvrissez. Donne-nous un cours sur la non-indexation. Qu'est-ce que ça produit comme
un revenu stable depuis, pour les années entre 82 et 99, inclusivement, ça veut dire 20 ans d'années de service qui ne sont pas indexées. Ça veut dire quelqu'un qui prend sa retraite aujourd'hui, puis il y a 20 ans de service sur 30 ans qui ne sont pas indexés et les autres ne sont non plus. Fait que là, il se ramasse avec le même montant d'un mois à l'autre. Puis vous savez, les personnes âgées, ils subissent l'augmentation de coût de la vie, la taxe, le panier de provisions. Surtout avec l'âge, on devient assujetti à une médication plus élevée. Fait que le coût de médication, c'est un nouveau poste qui n'était pas calculé dans le passé. Fait que, contrairement à l'évaluation de M. Patrick Charbonneau, il y a plusieurs de nos membres qui pensent sérieusement à vendre leur maison pour avoir un peu plus de cash puis aller dans un logement à loyer parce qu'ils n'ont plus les moyens de continuer à maintenir leur maison.
Ouais, là, ils vont frapper un mur parce que les logements, ils ne sont pas donnés, hein?
Ils sont pas donnés, mais leur évaluation, ils voient un gros montant qui arrive dans leurs mains pour régler le coût de la vie immédiatement. Malheureusement, ils font une mauvaise évaluation. Mais quand même, quand on est pris à la gorge, puis on n'est plus capable de payer la médication, puis faire le train de vie régulier pour avoir de la nourriture normale, il y a plusieurs qui s'en vont vers la popote roulante. Fait que c'est pas agréable. Les personnes qui ont servi l'État pendant 35 ans, puis ils se ramassent avec un montant qui est gelé, puis par une décision politique. Nous autres, on a créé un comité dirigé par M. Paul Martin, qui a rencontré le député pour lui demander, compte tenu c'est une décision politique, le règlement, il doit venir politiquement, puis on attend toujours sa réponse. Puis j'espère qu'il connaît les coordonnées de M. Paul Martin, il peut l'appeler pour lui dire c'est quoi les démarches qu'il a entreprises.
M. Martin, c'est l'ancien enseignant là, au cégep de Sorel-Tracy.
Exactement.
Oui, 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 qui s'est présenté pour Québec solidaire.
Effectivement.
Jadis.
Le trésorier de l'association. Et il est président du comité de l'indexation.
Oui. Vous avez entrepris une tournée des bureaux de députés, là, tu l'as dit. Vous avez parlé à Jean-Bernard Raymond. Vous avez initié une pétition aussi, hein?
la pétition est en chemin, puis j'espère qu'on aura une écoute du gouvernement. La dernière pétition qui a été présentée, c'est pour avoir une rencontre avec la présidente du Conseil du Trésor. Malheureusement, ce n'est pas réalisé. Imaginez-vous, avec une pétition pour rencontrer un ministre, puis ça ne se réalise pas.
Mon Dieu, ouais. Alors,
en tout cas,
restez positif.
Il faut rester positif pour le bien-être des personnes, qui ont servi l'État. Si quelqu'un n'a pas de respect pour ses vieux, il aura respect pour qui? Je me pose la question, est-ce que nous devons faire des manifestations? Nous n'avons pas la capacité physique pour aller dans la rue, pour dire nous avons besoin de conditions raisonnables pour continuer à vivre décemment. On n'a pas ce moyen.
Merci beaucoup, Albert Quelfand. On a entendu votre cri du cœur. Merci, Albert.
Je vous en prie. Merci de nous avoir donné l'occasion de le transmettre à tout le monde.
Ça fait plaisir. À bientôt.
À bientôt.
Ando Andrianadi est directeur général du Centre d'action bénévole du Bas-Richelieu, un organisme qui offre une impressionnante gamme de services aux personnes moins favorisées par la vie, du soutien alimentaire, notamment des cuisines collectives, une popote roulante, des déjeuners écoles et j'en passe. Bonjour, Ando.
Bonjour, Sylvain.
L'observe-t-on cette poussée inflationniste chez vous? Le voit-on que les taux d'intérêt puis l'inflation pèsent lourd sur le moral des Québécois? Est-ce que votre clientèle s'est accrue?
Oui, en effet, il y a un impact direct avec notre organisme. Donc, je peux le ventiler en quatre volets au fond. Premièrement, au niveau des achats en tant que tels dans notre organisme. Donc, il y a un impact au niveau de l'inflation. Donc, il ne faut pas oublier que, par exemple, pour les services justement de déjeuner école, on achète des denrées pour les enfants. Donc, ça a un impact sur nos dépenses. Deuxièmement, au niveau justement des denrées qui sont disponibles en ce moment, parce que nous, on est approvisionnés notamment avec Moisson-Rive-Sud. Donc, il y a un impact dans la chaîne d'approvisionnement. En étant dans un contexte un peu plus difficile, il y a plus de moins de denrées disponibles, étant donné que les grandes chaînes font aussi une sorte de coupure là-dessus. Troisièmement, au niveau justement du profil de notre clientèle, ça a beaucoup changé énormément. On voit de nouvelles familles qui viennent cogner à nos portes. Justement, au récent programme de centrée d'opération septembre, on avait vu plusieurs familles avec deux parents qui travaillent mais qui n'arrivent pas financièrement à la fin du mois. Il y a aussi des gens là, qui sont en arrêt de travail puis sont en attente de leur chèque, donc 8 semaines d'arrêt de travail, qui viennent cogner à nos portes. Et on parlait aussi d'aînés tantôt, donc notamment on a aussi des personnes âgées là, qui font affaire avec notre service de banque alimentaire. Et dernièrement, vous avez parlé de déjeuner école. On voit actuellement qu'il y a une grande demande à ce niveau-là. On passe de 83 familles durant l'année scolaire dernière à 108 familles en ce moment, donc une augmentation de 25 familles pour cette nouvelle année scolaire.
Est-ce que vous êtes, dans le contexte là, difficile économiquement, où ça vous coûte plus cher à vous autres même, là, est-ce que vous êtes mieux appuyé par les gouvernements pendant cette période-ci là?
Ben, il faut faire la part de choses en France ou deux choses. Premièrement, récemment, on a eu une annonce, je pense que tout le monde le sait, une annonce gouvernementale en lien avec la popote roulante. Donc, le regroupement des popotes roulantes du Québec avec le gouvernement du Québec avait annoncé une enveloppe de 10,4 millions pour les organismes qui font la popote. Donc, on a reçu une somme à ce niveau-là qui est pour notre mission. Donc, on essaie de travailler là-dessus. En ce moment, on a formé un comité pour aider les personnes âgées qui font affaire à ce service-là pour essayer de subventionner les prix des repas afin que ce soit accessible à ces gens-là. La deuxième partie, c'est que notre financement de base est toujours, insuffisant. Donc, ça, c'est un fait. Donc, que ce soit ici au CAP du Bachelieu ou dans les autres organismes communautaires, c'est tout le temps le même discours là, à ce niveau-là.
Votre guignolée annuelle, elle approche de lentement?
Oui, effectivement, on est en train de planifier la préparation de tout ça en collaboration avec le GEST, justement, puis on va publiciser les informations éventuellement.
C'est quand ça, à peu près, dans quel...
Mais nous, on commence au fond les inscriptions pour les familles et les individus en début novembre, puis ça continue jusqu'à la première, deuxième semaine de décembre, mais on va vous revenir avec les dates exactes à ce niveau-là. Puis la guignolée en tant que telle, je l'annonce en primeur que ce ne sera pas une guignolée porte-à-porte cette année, ça va être vraiment une guignolée dans les rues, donc dans les artères de rue, dans les coins de rue. Ceci étant dit, les épiceries participantes puis les commerçants vont recevoir aussi des barils là, où les gens pourront remettre les denrées périssables qu'on va remettre au soutien alimentaire notamment.
Alors, pas de porte-à-porte. Pourquoi pas de porte-à-porte? Est-ce qu'il manque de bénévoles?
Tout à fait. On a fait...
Ben voyons.
Il y a eu et aussi un changement à ce niveau-là. Donc, on a fait un recensement de nos bénévoles. On a appelé tous les bénévoles actifs du CAB, notamment ceux qui bénévolent au CAB avant 2019, avant la pandémie. Puis on s'est constaté qu'après 2022, on a plus que 30% de bénévoles qui ne sont pas revenus. Puis
c'est
difficile à ce niveau-là. Puis c'est particulier aussi. Je trouve qu'après la pandémie, le contexte a totalement changé. Donc, les gens, soit, exemple, dans les réponses qu'on a eues, qu'il y avait un souci, un enjeu au niveau de services de garde, donc ils gardent leurs petits-enfants et tout ça. Il faut rappeler que nos bénévoles sont quand même des personnes âgées.
Oui, des gens plus âgés, oui. Ando, je dois vous remercier. Merci beaucoup, Ando Andrianadi.
Ça fait plaisir.
Merci. Je parle après les publicités avec José Papillon, Michel Beaulieu et Sandrine Pellerin.
Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, de chambres à coucher, de matelas et d'électroménager pour répondre à chacun de vos besoins. Nos conseillers sont là pour vous guider afin d'ajouter audace et élégance à votre décor. Profitez aussi de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez lemeublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos collections et les nouvelles tendances. Spécialisé en matière de mobilier de qualité, Meubles André Beaulieu s'impose de génération en génération depuis plus de 40 ans.
Au Canac de Contrecoeur cette semaine, la laveuse à pression électrique Spider Mini est à 129 $. La peinture Luxura cuisine et salle de bain à 27,95 $ le 3,7 litres. Rangez tous vos outils grâce au sac à outils Vulcan à 25,49 $ et décorez votre maison avec le meuble deux portes Jasmine à 129 $. Le fauteuil d'appoint Karma à 119 $ et le miroir noir à feuilles à 25 $. Valide jusqu'au 11 octobre. Canac de Contrecoeur. Des prix ridicules. Tous les jours.
À la bonne heure, tous les matins, 5h45.
Quelle belle façon de commencer votre journée ou de finir votre nuit qu'avec un bref retour dans le temps, dans l'histoire et dans la musique. Mon nom est Valérie Ferland, c'est le rendez-vous que je vous lance du lundi au vendredi.
CJSO 101.7, La Tribune, une présentation de Meubles André Beaulieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune.
Les taux d'intérêt, l'inflation pèsent lourd sur le moral des Québécois. Un sur quatre serait incapable de payer ses factures si sa paye était différée d'une semaine. Comment cette situation-là se vit-elle chez nous? C'est la question qui nous occupe ce midi à la tribune. On débute ce dernier segment de l'émission en compagnie de José Papillon de l'épicerie Le Geste, route Marie-Victorin dans le secteur Tracy-Saint-Joseph-de-Sorel. Bonjour José.
Bonjour Sylvain, ça va bien?
Ça va bien. La clientèle de votre marché d'alimentation a-t-elle bondi, José, comme l'inflation et les taux d'intérêt ont bondi?
Je dois vous admettre que ce n'est pas seulement le nombre de personnes qui ont besoin à nos services, c'est aussi leur portrait de famille qui a vraiment évolué de façon dramatique. Avant, on avait quand même un certain nombre de familles fragilisées. Ces familles-là, quand même, avaient des ressources, avaient une habitude de vie pour leur permettre de remplir leurs besoins de base, tout au moins, connaissaient les services. Maintenant, ce qu'on dénote, c'est qu'il y a de plus en plus de nouvelles familles en situation de crise. Puis, ce qui est un petit peu déplorable, c'est que ces familles-là, c'est comme si c'est de la nouvelle fragilité. Il y a une vulnérabilité qui n'était pas là avant. Les conditions sont plus précaires, les crises, l'insécurité prend toute la place. Puis ces familles-là, ils ont de la difficulté à être ouverts ou à connaître les ressources qui existent. Donc, leur besoin d'accompagnement est vraiment plus grand. Leur besoin d'écoute aussi.
Quelle doit être notre situation financière pour avoir accès à la caisse là, du marché le geste, avoir accès à une réduction? Est-ce qu'il faut être absolument sans travail, vivre de prestations d'aide sociale?
Malheureusement, c'est des idées préconçues, là, OK? La situation actuelle économique là, affecte de façon tellement grande les familles que même si on travaille, même si on a souvent un deuxième emploi, ça suffit plus. Les besoins de base prennent toute la place. Tantôt, vous aviez quand même plusieurs personnes là qui l'ont soulevé, là, dont Action Logement a mentionné là la partie logement et besoins de base est vraiment comme disproportionnée par rapport aux revenus. Fait qu'on étudie l'ensemble du dossier.
OK. Alors, quelle démarche doit-on...
Revenus.
OK. Quelle démarche on doit faire pour faire authentifier notre situation économique difficile et ainsi, chez vous, avoir rendu à la caisse une réduction?
Un rabais.
Oui, un rabais.
On commence d'abord par prendre rendez-vous. Fait qu'il faut appeler au geste. On séduit le rendez-vous. On demande aux gens d'amener certains documents parce que le rabais, on le veut le plus ajusté possible à la situation réelle que la famille vit. Chaque famille a une situation qui est très différente. Une évaluation avant qui était standard prenait une vingtaine de minutes. Maintenant, on prend vraiment le temps de rencontrer chacune des familles, d'évaluer chacune de leurs besoins, chacune de leurs obligations et de regarder les dettes sur le long terme. C'est combien de temps ça va prendre pour restructurer le budget, là, ce qui va nous permettre de référer. Avant, les gens étaient évalués seulement sur leur revenu de base. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont besoin comme service? Comment on peut les outiller pour balancer le budget? C'est ce qui prend la plus grande partie de l'évaluation. Maintenant, on peut facilement là, parler d'une évaluation puis d'un accompagnement qui va durer au moins 45 minutes par famille.
Ah ben, c'est très bien. José, c'est déjà tout le temps que nous avons. Ça passe beaucoup trop vite. Rappelez-moi l'adresse de l'épicerie Le Geste.
Donc, Le Geste est au 1225 route Marie-Victorin à Sorel-Tracy.
Merci beaucoup, José Papillon. Merci. C'est au tour de Michel Beaulieu de l'Association coopérative d'économie familiale de la Montérégie-Est de se prêter à nos questions. Bonjour, Michel.
Bonjour, Sylvain.
La CEFT, c'est un organisme qui existe depuis plusieurs années, ça?
Oui, la CEFT, on a été parti dans les années 60 par des mouvements syndicaux là, lors des grandes grèves qu'il y a eu dans ces années-là. Donc, c'est un mouvement de solidarité là, qui avait été parti pour venir en aide aux syndiqués au tout départ dans les années 60. Mais nous, à la CEF Montérégie-Est, on existe depuis 1974 à Granby, à Saint-Hyacinthe et à Sorel depuis les années 2010.
C'est ça, vous avez des bureaux à Sorel-Tracy.
On a un bureau à Sorel-Tracy maintenant, là, qui est situé entre le Palais de justice et la Caisse populaire au centre-ville.
Vous êtes là pour éduquer les consommateurs puis les défendre.
Exactement. Nous, le droit du consommateur se fait de telle sorte que, bon, si on veut, on achète un bien qui est brisé peu de temps après ou ces choses-là, il y a différents recours qui existent, donc les gens peuvent nous consulter pour faire valoir leurs droits dans les différents commerces parce qu'il y a toujours la loi de la protection du consommateur qui existe. Puis nous, une partie de notre financement, c'est l'Union des consommateurs. Et le plus gros de notre travail, je vous cacherai pas, dans les derniers 18 mois que je suis ici, c'est vraiment là des consultations budgétaires.
C'est ça.
Hein, de plus en plus intenses et contrairement à ce qu'on pourrait penser, même comme José disait tantôt, là, il y a de plus en plus de familles où les deux personnes travaillent qui viennent nous voir pour essayer de trouver des solutions parce que tout augmente. Là.
Comment ça fonctionne, votre service de consultation budgétaire?
Ben, les gens se présentent ici avec leur téléphone cellulaire parce que maintenant, on a accès à peu près à toutes nos paperasses, nos comptes, ces choses-là dans avec nos petits ordinateurs qu'on traîne dans nos téléphones cellulaires. Fait que les gens se présentent avec ça et on va faire une prédiction budgétaire. Donc, on va regarder l'ensemble des dépenses d'un mois courant. On va regarder sur le mois passé, sur les 30 jours passés, par exemple. Et puis là, on va déterminer si la personne surévalue ou sous-évalue ses dépenses. Parce que des fois, là, un café par jour au Tim Hortons, à 3 $ exemple, le café, 15 $ par semaine, on est rendu à 63 $ à la fin du mois.
Alors, vous faites prendre conscience aux gens de leurs dépenses.
Oui, les gens voient les calculs, on les fait avec eux, ils le voient, c'est en dessous de leurs yeux, ils voient bien que, bon, on a, je sais pas, moi, 350 $ d'épicerie pour une personne, puis on a 175 $ de restaurant. Donc, la personne ne s'en apercevait pas qu'elle avait ces dépenses-là nécessairement. Fait qu'à quelque part, oui, on va vers la conscientisation de chacun des ménages. Mais aujourd'hui, au moment où on se parle, Sylvain, on n'est plus vraiment là. Les cas qui se présentent sont de plus en plus lourds. Les gens ont énormément de responsabilités financières. Hein. On se souvient, il y a 5 ans de ça, il y a quelqu'un en campagne électorale qui avait mentionné qu'on pouvait nourrir une famille avec 75$ par semaine.
Oui, je me souviens vaguement de ça. Hey, ça va trop vite, Michel Beaulieu. Un numéro pour vous joindre à la CEF.
Oui, 450-908-0929.
Merci. Oui. Vous allez ajouter quelque chose?
Ça va nous faire plaisir. Chaque cas est évalué individuellement, puis on travaille avec les auto-organismes aussi.
Très bien. Merci beaucoup, Michel Beaulieu. Merci.
Hey, merci, Sylvain.
On termine cette émission en compagnie de Sandrine Pellerin. Sandrine, qui est la maman de 5 enfants. On ne voit pas beaucoup ça de nos jours. Alors, vous avez bien entendu, 5 enfants. Bonjour, Sandrine.
Bonjour.
Quel est l'âge du plus jeune et quel est l'âge du plus vieux de vos enfants?
En fait, là, le plus grand a 13 ans et la petite dernière a eu 3 ans cet été.
Et là, avec toutes les activités là, qui sollicitent nos jeunes aujourd'hui, le hockey, le soccer, la gymnastique, puis nommez-en, vous devez passer votre temps à faire le taxi?
Bien, en fait, nous, c'est quand même particulier comme situation parce qu'on est, depuis quelques années en démarrage d'entreprise du côté agricole. Donc, ça occupe une très, très grande portion de notre temps. Les enfants sont avec nous sur la ferme, donc ils jouent beaucoup dehors. Puis les activités, ça va plus du côté du parascolaire là, avec l'école. Sinon, c'est vraiment le plein air avec nous à la ferme. Donc.
Oui, alors c'est ça, je continue à préciser votre situation. Là. Vous avez habité à Saint-Aimé, vous êtes aujourd'hui à Saint-Hugues, où vous exploitez avec votre conjoint nos racines, une ferme biologique d'agriculture de proximité. La vie que vous menez, là, la vie sur la ferme, est-ce que ça vous aide à arriver à nourrir ces 5 bouches-là? Vous êtes 7 personnes à table, là, vous autres, tous les jours.
Oui, exactement. Absolument. Le projet, en fait, là, c'est vraiment du côté du maraîchage. Donc, on peut affirmer qu'on est pratiquement 100% autosuffisant au niveau de tout ce qui est fruits et légumes à la table. Donc, évidemment que ça donne un gros coup de pouce, bien qu'on est en démarrage d'entreprise agricole, qui est l'autre côté de la médaille. Donc, ça aussi, on sait que c'est des années plus difficiles quand on démarre un projet comme ça. Mais le fait qu'on soit dans l'alimentaire nous donne un solide coup de pouce au niveau de la facture là, à l'épicerie.
Oui, bien que la ferme ne vous donne pas accès à tous les produits alimentaires quotidiens dont vous avez besoin, tout a augmenté à l'épicerie, ça doit vous coûter une fortune pareille, non?
Bien, en fait, on est chanceux parce que le coût de notre facture d'épicerie n'a pas tant changé que les produits qui s'y retrouvent, qui sont différents. Donc, tout ce qui est fruits et légumes, on est quand même suffisant avec la ferme. On a la chance d'avoir des voisins, des amis qui élèvent des animaux, donc on peut se procurer notre viande avec eux. Fait que c'est vraiment tout ce qui est... qui n'est pas produit sur place là, avec la ferme qu'on doit acheter à l'épicerie, tout ce qui est produit laitier, farine, céréales. Donc, notre coût d'épicerie n'a pas tant augmenté de par le projet, mais ce qui se retrouve sur la liste est différent parce qu'on ne peut pas non plus... on doit quand même se procurer là, tout ce qui est farine, céréales et tout ce qu'on a tout à la ferme.
Et j'imagine que vous cuisinez beaucoup plutôt que d'aller au restaurant.
Exactement. Donc, on ajoute beaucoup des aliments de base qu'on va transformer, qu'on va cuisiner à la maison. Donc, ça nous aide. Ça, on pourrait pas faire comme avant. C'est sûr que si on achetait toute notre viande, tous nos fruits et légumes, puis des produits transformés, puis aller au restaurant, on y arriverait pas, là, avec l'inflation. Puis tout ce qui se passe en 2023, la facture serait beaucoup trop haute. Là,
bon, ça, c'est l'alimentation, mais il y a les vêtements, les articles pour l'école.
Oui, bien, on se tourne beaucoup du côté du second main. On est très adepte des systèmes d'église et de nos suivants, donc Marketplace et compagnie nous aident beaucoup. Puis, j'ai aussi la chance de participer à l'organisation d'un événement pour le Carrefour Naissance Famille, qui est un gros marché aux puces qui a lieu deux fois par année. Donc, ça, ça nous donne vraiment, vraiment un énorme coup de pouce. On est capable de lier les cinq enfants pour l'année avec du beau stock qui vient de la région.
Ben oui, vous trouvez le temps de vous impliquer au Carrefour de Naissance Famille, ici à Sorel-Tracy. Je suis certain que plein de nos auditeurs se disent « Est-elle assez courageuse, cette jeune femme-là?
» Je pense que c'est un petit geste, ça demande un petit peu de mon temps, mais ça a une énorme répercussion, c'est que je pense que c'est important de le faire.
Merci beaucoup, Sandrine Pellerin. Merci beaucoup!
Ça me fait plaisir. Merci à vous.
Merci, bon après-midi. Merci à l'ensemble de mes invités, à Laurent Cournoyer, et à la semaine prochaine pour une autre édition de La Tribune.